Écrit à l'encre bleue. Une émission proposée par Nicolas Vorel. Produite par Radio Larzac. Au sommaire de cette émission, deux femmes, deux créatrices, deux artistes. Tout d'abord, un grand entretien avec Marie Demy que j'ai rencontrée dans son atelier en marge de son exposition à la Vrac. Puis une intense relecture de Isn't It a Pity par Nina Simone. Co-fondatrice et co-animatrice de la Vrac avec Stéphane Gott, Marie Demy expose jusqu'au 30 juin une œuvre multiforme dans la vitrine régionale d'art contemporain située au pied du beffroi de Millau. Elle a bien voulu répondre à mes questions, qu'elle en soit ici remerciée. Marie, tu présentes ton travail comme un travail sur l'image. En quoi est-ce différent d'un travail sur la photographie ou sur la peinture ?
Alors, par rapport à l'image, par rapport à la photo et par rapport à la peinture, hein ? Parce que lorsque je travaille, je fais toujours le choix d'une image, parce que c'est pas forcément une photographie, et je ne fais pas de photographie, parce que c'est une image travaillée, avec des matériaux différents, des techniques différentes. Ça n'a rien à voir avec une photographie prise sur le vif ou même une photographie installée, quoi.
Est-ce que donc ces images ou cette image de départ, elle peut devenir un objet ? Et si oui, comment peut-on lui trouver un volume ou une épaisseur ou un relief ?
Oui, souvent, le résultat peut être donc une nouvelle image, mais peut-être aussi un objet très lié à l'image. Comment dire, par exemple, lorsque je fais des projections sur de la terre ou sur des matériaux différents, ça peut être de la farine, du sable, qu'importe, de sucre, je sais pas. L'image est projetée dessus. Je peux en faire une photo de ça, mais je peux aussi la présenter comme ça, hein, en installation avec le tas de terre et l'image projetée.
En regardant ton exposition à la Vrac, on a l'impression presque d'une rétrospective ramenée en un lieu et pratiquement condensée en une œuvre. Oui. Est-ce que cette démarche tend uniquement vers le résumé ou bien s'agit-il de faire œuvre originale avec des éléments préexistants ?
Alors, la Vrac, c'est pour moi une nouvelle expérience. Hein, j'ai vraiment fait ce projet pour la Vrac. Je pense que dans d'autres expositions, je ne travaille pas pareil. Et là, c'est des œuvres qui découlent d'une seule image. Mais comme tu disais, c'est une œuvre. Hein. Mais elle pourrait prendre une forme tout à fait différente. Mais là, j'ai vraiment travaillé par rapport au lieu spécifique qu'est la Vrac, avec les trois murs. Bon, bien sûr, elles sont toutes liées, mais j'ai travaillé par mur, en fin de compte.
Et au départ, il y avait une maquette de la vitrine, c'est ça ?
Oui, j'ai travaillé avec la maquette qu'avait fabriquée Stéphane là, pour son exposition. Donc, il me l'a prêtée, j'ai travaillé, avec. Et j'avais fait d'autres propositions, hein, j'en ai fait beaucoup, et avec plus d'objets peut-être, mais je fabriquais mes petits objets en miniature avec des bouts de gomme, des choses comme ça, et j'ai arrêté parce que j'avais l'impression d'être dans une maison de poupée, tu vois, à installer mes choses, et j'ai un petit peu abandonné les objets qui sont revenus, en fin de compte, il y a un objet qui est revenu, hein, la bûche avec la partie, la dorure et l'image. Parce que, bon, c'était... j'ai voulu présenter l'image d'origine, donc j'ai repris l'objet.
Alors, effectivement, le fait de travailler sur un modèle réduit, là, une maquette comme ça, ça permet peut-être de prendre conscience de l'espace et d'organiser les choses dans l'espace. Mais en revanche, ça dissout le détail. C'est-à-dire qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas le même rapport avec les objets qui vont rentrer dans l'expo en taille réelle, quoi.
Oui, parce que bon, j'ai dû refaire quelques tirages. Je veux dire, ça donne une idée. Ça donne une idée, mais je me suis aperçue quand même que on ne pouvait pas se fier totalement quand même. Hein. Là, il y a un autre rapport physique avec l'image, ouais. Avec l'installation. Ouais. J'ai travaillé avec l'ordinateur pour la composition des murs. C'est pareil, ça.
C'est-à-dire
c'est... Eh ben, je faisais aussi des... Bon, j'ai un dossier X Projet Vrac. Donc, je mettais en scène mes images. Et là aussi, c'est qu'une idée.
Non, l'idée, c'est de pouvoir produire plusieurs variantes possibles.
Non, l'idée, c'est qu'il faut que je passe par toutes ces variantes pour arriver à, voilà, pour trouver la bonne. Hein. Et bon, un jour, je me suis arrêtée. J'étais... Parce que c'est cette variante-là m'a surprise. J'étais en train de la faire et je sais pas, je me suis arrêtée sur tout celle où il y a le plus de composition, de superposition d'images. Je trouvais qu'il y avait rien à changer. Enfin, j'avais plus rien à bouger, donc je suis restée là-dessus. Ouais.
Dans ton catalogue, on trouve plusieurs séries comme Les Mathildes ou Rencontre avec un bateau ou Les Merveilles du Monde. Et dans cette série des Merveilles du Monde, tu revisites des architectures monumentales en créant des hybridations de monuments ou en ouvrant des ouvertures dans les façades. Est-ce que c'est important pour toi ce rapport à l'architecture ?
Bon, c'est arrivé par hasard parce que bon, je n'avais pas idée d'aller travailler sur l'architecture. Bon, je m'y intéresse bien sûr, mais là c'était des images, ça vient d'une série de diapositives que j'ai récupérées, Les Merveilles du Monde, une série éditée, enfin c'est très vieux, hein, d'une marque de pâte, Mia Frère. Donc bon, je les avais. Et j'ai aussi beaucoup de photos de voyages, hein, d'architecture. J'en ai récupéré aussi, puisque j'ai une amie qui m'en a donné, qui avait récupéré de sa tante, qui avait beaucoup de diapos de voyage, qui les classait. Et donc, j'ai commencé à associer différentes architectures, des châteaux de la Loire avec le temple Apollon de Grèce. Et ça m'a beaucoup plu de travailler en petit, de découper, rafistoler, agrafer et projeter. Bon, ça, la moindre agrafe... prend une importance incroyable et où je les ai brûlés aussi, troués. Mais surtout, je pense que je continuerai, c'est de faire des assemblages comme ça, de réunions de différents bâtiments célèbres, quoi. Et surtout des bâtiments historiques, voilà.
Oui, donc tout le travail de montage, il se fait sur l'image de départ, en fait. Ouais. À la taille de départ, et ce n'est qu'à la projection que c'est agrandi. Et donc, du coup, le montage devient encore plus apparent.
Oui, ouais, tout à fait, oui. Mm. Et là aussi, bon, j'ai beau bricoler, après, moi, j'ai des surprises lors de la projection. C'est là que, voilà, je continue ou je ne continue pas. Mais bon, après, bon, par moment, j'ai fait quelques photos entre, mais après, c'est définitif, quoi, là. Et quand c'est brûlé, quoi. Et j'ai plus la même image, ce côté rougi des diapos là qui me plaît bien aussi, ouais. Mm-hmm.
Et est-ce que la projection, elle se fait uniquement sur un plan, enfin sur un écran, ou est-ce que là aussi tu peux faire intervenir le relief?
Oui, mais ça c'est dans un second temps. Après, quand j'ai créé ces bricolages là d'images là, je cherche pas. C'est dans un autre temps, peut-être dans un an où je vais. Voilà. Je les abandonne pas, quoi. Même si je peux les présenter d'une certaine manière, elles peuvent revenir une autre fois sous forme peut-être de projection sur la Terre ou je sais pas, peuvent m'inspirer d'autres trucs.
Oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais un point final au travail d'une certaine manière.
Non, c'est sans fin. C'est l'art sans fin. C'est vrai. Donc, j'ai tout. Comme je disais, je garde tout. Les choses que je trouve pas forcément intéressantes, je les garde parce que je peux m'y intéresser plus tard.
Et dans la série des Mathildes, donc il s'agit de portraits d'une jeune fille qui sont retravaillés par la couleur. D'une manière qui nous ramène presque à l'impressionnisme ou au fauvisme. Est-ce que là, il y a l'envie de faire fi du réalisme avec cette série de portraits?
Toujours, hein, je fuis un petit peu la réalité originale. Par exemple, bon, ben là, c'est. Même si, bon, d'un côté, c'est ma nièce, donc j'avais beaucoup de plaisir à travailler, à lui offrir ça, et très contente. Mais après, je continue, je pars dans différents chemins. C'est vrai que des fois, je pars, j'ai l'impression que c'est plus culture hindoue. C'est au gré. Au gré du travail, au gré au bout de 80, et plus j'en fais, plus je vais chercher une manière de faire. C'est un travail de recherche aussi dans l'intervention sur l'image, sur cette même image comme ça, qui est bon 80, mais je crois que je peux en faire encore autant, quoi. Hein. Je sais pas. Et c'est. Pinceau, mais je travaille beaucoup la loupe aussi.
Oui, 80, et c'est-à-dire que l'amplitude de la variation est très importante, c'est-à-dire que chaque image elle-même est quand même unique de toute façon, c'est-à-dire que c'est pas une petite modification par-ci par-là.
Non, c'est, non. Ouais, je recommence toujours dessus, ouais. Mmh. Oui, je reprends toujours une photo, une nouvelle photo, enfin c'est même modèle, mais on fait plusieurs tirages et. Voilà, j'interviens dessus. Ça, c'est les Mathildes, je les fais, je les ai faites, et puis je les fais une le soir, quoi. C'est le petit truc. C'est un peu au quotidien, ouais. J'aime bien voir des choses comme ça au quotidien.
Avec Milan et Pierrot, ou Gilles et Pierrot, tu crées des diptyques intemporels. En confrontant un profil Renaissance à deux profils modernes, dans une forme qui se réfère à l'histoire de l'art. Est-ce que ces références à l'histoire de la peinture, c'est quelque chose qui tient au côté culturel ou bien au jeu du détournement?
Oh non, c'est parce que c'est. Voilà, entre autres, c'est une carte postale là, de Piero della Francesca que j'avais acheté parce que j'aimais beaucoup le tableau. Et voilà, et ça se trouve que un jour, j'avais pris donc les photos de Gilles et je les ai associées. Mais c'est souvent que j'ai associé des portraits à des peintures. Hein, je l'ai fait à Conques aussi, avec les gens de Conques. J'avais rencontré les gens de Conques, j'avais pris des portraits et après j'ai fait des superpositions avec des madones, des choses comme ça. Et je les ai fait montrer en film parce que je faisais passer d'une image à l'autre. Tu vois, parce que lorsqu'on superpose deux diapositives, on peut avoir la première nette. Et à un moment, c'est flou, et là, voilà, on peut jouer sur la netteté, quoi, voilà. Et ça aussi, bon, ça fait beaucoup plaisir, ça a beaucoup fait plaisir aux personnes, quoi. Ils sont très honorés d'être associés à une œuvre d'art, à une Madone de Raphaël, voilà.
Mais ces portraits, quand même, ils sont scénographiés, c'est pas le fruit du hasard.
Oui, je cherche dans ce que j'ai en général, hein, parce que j'ai beaucoup de diapos. Et ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. J'ai très peu recherché des images pour avec l'intention de. En général, c'est des images que j'ai, des diapositives que j'ai. Je prévois pas le travail que je vais faire avec les images. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses, beaucoup d'essais avant de trouver la bonne.
Ce que je voulais dire là, c'est que dans les deux diptyques que je citais. Donc il y a effectivement cette carte postale de Piero della Francesca, et en face, donc les portraits photographiques, ils sont quand même agencés de façon à ce qu'il y ait un effet miroir.
Oui, mais le premier, c'est par hasard. Après, j'ai vraiment...
Tu veux dire, c'est la séance chez le coiffeur qui a...
Donc, comme coupe les cheveux. Donc, la première, elle n'a pas été prévue pour être associée au portrait de Piero della Francesca, de la peinture. Mais la deuxième, oui. J'ai voulu faire le fils, voilà.
Radio Larzac écrit à l'encre bleue.
Oui, parce que même dans le drapé du vêtement, on retrouve quelque chose.
Eh oui, mais bon, voilà, quand on coupe les cheveux, on met une serviette sur le dos, quoi. Voilà, ce plaisir là d'un jour de faire l'association. Et de trouver ça bien, et bon, après, là, je l'ai décliné, mais voilà.
Dans l'image qui sert de point de départ à l'exposition de la Vrac, et qui est reprise sur l'affiche, d'ailleurs, ce qui en donne une perspective différente. D'ailleurs, peut-être tu pourras nous parler de l'histoire de cette image, la décrire, ce qui m'apparaît comme ça, ce qui en ressort au premier regard, c'est plusieurs choses. Quelque chose qui tient à l'enfance, à l'orientalisme, d'une certaine manière, dans la texture, la façon dont la couleur est travaillée et la définition du trait aussi. Et puis, la notion de quelque chose caché aussi. Cette référence à l'orientalisme ou à l'histoire de l'art ou à l'architecture, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait associer à une démarche qui tend vers l'universel, ou c'est autre chose?
Oui, moi je préfère tendre vers l'universel que ce soit lié à l'intime et que j'en sorte pas. Enfin, je veux dire, je sais que quand je travaille avec l'image, j'oublie le moment où elle a été prise ou trouvée. Enfin, quand je suis dans le travail. Je peux partir sur n'importe quel chemin, quoi. Hein.
Peut-être simplement sur l'image en elle-même. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Donc l'image, c'est une photo prise lors d'un voyage en Égypte, mais voyage en Moyen-Orient, Égypte, Jordanie, Syrie. Donc là, manière de voyager, c'est la destination, c'était Égypte, et puis après. Peut-être Israël, où on ne savait pas trop. Et donc, cette image des deux personnes qui repeignent le tapis, c'est une photo prise dans les rues du Caire. Voilà. Et une des rares photos, peut-être, de gens de rue, comme ça, puisque les photos de personnages, c'est souvent les gens qu'on avait rencontrés. Et donc cette image-là, ben, ça fait longtemps que je l'avais mise de côté. Hein. Ça parle de peinture aussi. Bon, c'est comme une mise en scène aussi. Voilà, mais c'est une photo prise sur le vif. Voilà.
Mise en scène, peut-être une mise en abîme aussi par rapport à la peinture, je ne sais pas, dans l'exposition. Le fait que les visages soient cachés, c'est ce qui induit en erreur d'ailleurs dans le... Je parlais de l'enfance, voilà, parce qu'en réalité ce sont des personnages adultes. Mais le fait que les visages soient cachés d'une part, et d'autre part l'action qu'ils sont en train de réaliser, ça tend vers l'enfance.
Ah oui. Ah ben, j'ai pas pensé, moi. Mais parce que c'est vrai que c'est un... Repeindre un tapis usagé, enfin, c'est ça qui m'a bien sûr arrêtée hein, sur cette image. Et ouais, je réfléchissais, ça sert à quoi redonner est-ce que c'est un signe de manque de moyens? Est-ce que c'est culturel? Enfin, est-ce que ça se fait? Je ne sais pas du tout, hein, j'en sais pas plus. Mais moi, c'est des gestes. Je trouvais que ça me ressemblait quelque part, ces gestes. Pour moi, c'est pas pour refaire du neuf avec du vieux, mais c'est des gestes très simples, redonner de la couleur, redonner autre chose.
Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'économie, peut-être même de l'économie du pauvre, d'une certaine manière ? Qui fait que ben voilà, quelque chose comme ça d'usager, on a envie de le prolonger au-delà de ce que pourrait être son existence.
Oui, parce qu'il pourrait très bien le garder comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas la couleur qui... Enfin, ça lui redonne de l'éclat, mais ça fait rien à sa qualité. Donc oui, il y a ça qui est étonnant. Quoi, de... Puis bon, ça se passe dans la rue... Voilà, c'est étonnant, ouais. Mais bon, c'est vrai que moi, tout ce que j'utilise, enfin, les techniques que j'utilise, c'est des techniques pauvres, on va dire. Hein. C'est des moyens rudimentaires, pratiquement tout le temps. Hein. C'est avec ce que j'ai.
Ce drapé, là, qui vient occulter les visages, comment est-ce qu'il est arrivé, là, sur l'image?
J'ai pris des photos d'une exposition à Toulouse là sur Benjamin Constant et c'est vrai que bon j'avais déjà vu des peintures d'orientalistes et là fait de prendre des détails enfin c'est beaucoup de dorures beaucoup de décoratifs beaucoup de matière et donc j'ai commencé à associer donc mes images avec des détails, des morceaux de peinture de Benjamin Constant. Et là, ça fait un peu comme une levée de rideau. Au départ, j'aurais pu envoyer en carton d'invitation l'image telle quelle, mais là, je trouvais que ça donnait un peu cette idée aussi de l'exposition, un peu plus, je sais pas. Je ne voulais pas non plus envoyer la photo comme une énigme. Voilà, je voulais en faire un petit tableau. Enfin, j'ai hésité hein, entre les deux.
Dans l'expo, il y a aussi quelque chose qui tient au voyage, avec bon, par exemple le bateau. Et puis peut-être il y a la dorure donc, dont tu parlais précédemment. D'une certaine manière aussi, elle fait le lien entre peut-être ce côté orientaliste du tableau et vers un côté qui tient presque de l'enluminure.
L'or, là, qui est, pour moi, c'est l'or qui dégouline. Et c'est un peu... l'idée là, de l'or qui dégouline, c'est tous les rêves, enfin, les rêves de l'Orient, parce que c'est les orientalistes, c'était exagéré, hein, c'est... Et là, c'est tout qui part, enfin tout qui coule, quoi. Comme si ça tombait ça coulait de la photo. Enfin, moi, c'était l'idée que j'avais.
Quand tu parles du rêve exagéré, ça veut dire que dans ce mouvement artistique, il y a quelque chose qui tient à l'interprétation.
Oui, le rêve d'Orient avec les femmes langoureuses, pleines de bijoux. Il y a beaucoup d'or dans toutes ces peintures, toutes ces scènes d'intérieur. Je veux dire, c'est très luxueux. C'est vraiment le harem, enfin, avec tout. Architecture aussi.
Et donc le fait que ça dégouline, c'est que ça ne correspond pas à la réalité qu'on peut rencontrer en voyage ?
Oui, mais moi, ce voyage en Moyen-Orient, c'est. C'est le voyage le plus difficile parce qu'il y a un jour où on est face à la pauvreté très grande. Et à notre côté, bon ben, il y a des richesses, il y a des richesses humaines, enfin les rencontres humaines, mais aussi des richesses au niveau de l'architecture et des biens culturels, ouais.
Alors, cette exposition à la VRAC, elle est programmée depuis un certain temps déjà, puisque en fait vous vous y prenez relativement à l'avance pour faire la programmation. Est-ce que ça veut dire, toi, dans la manière dont tu as conçu ton exposition? Est-ce que tu as entamé la réflexion aussitôt ou est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé au bout d'un certain temps seulement ?
Non, j'ai commencé très tôt, enfin il y a un an quoi. Il y a un an, j'ai commencé à y réfléchir, voilà. Et donc j'ai fait, ça m'a aussi, ça faisait quelque temps que j'avais pas travaillé non plus dans mon atelier. Et là, j'étais très contente d'y retourner. Et voilà, ça m'a. Le fait d'avoir du temps, c'était très agréable. Enfin, de ne pas avoir une date proche. Donc, ça m'a donné beaucoup de liberté. Et puis, le temps, parce que le temps est important. Voilà. Je peux pas. Il me faut du recul.
C'est un luxe, le temps?
Ah oui, ouais, non, c'est... Ah ouais, je suis pas... Je peux pas produire comme ça pour une expo en un mois ou... Non, il faut vraiment... Déjà, il faut que je produise beaucoup pour après choisir. Après, je pense que j'ai encore... Enfin, c'est... Je crois que le choix est... fait partie intégrante de mon travail. Il faut vraiment... je sais que j'ai encore beaucoup à faire. Hein, le choix des œuvres à présenter.
Beaucoup à faire, c'est-à-dire ?
Beaucoup à faire, parce que... là, ça a été un moment où j'ai réussi pour moi, enfin bon, mais bon, le lendemain j'aurais pu tout changer, hein, tant que je me suis forcée à m'arrêter.
Donc quand tu dis que tu aurais pu tout changer le lendemain,
pas tout changer, mais
est-ce que ça veut dire que au moment où tu décides d'arrêter, il faut que ça tienne la route, il faut que ça tienne la distance,
ouais. Faut que ça tienne la route, ouais. Oui, pour moi, une œuvre il faut pas se lasser d'une œuvre. Moi, c'est une bonne œuvre, c'est quand on s'en lasse pas. Enfin, quand je m'en lasse pas toujours.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de s'atteler à une autre œuvre, si justement il y a cette notion finalement de réussite dans le travail, puisqu'on décide de l'arrêter à un moment donné?
Oui, c'est que je change pas souvent, hein, j'ai pas travaillé sur énormément d'images. Après, il y a des circonstances, des fois je fais des choses pour mes amis ou pour ma famille. Donc, c'est ça qui fait que je change d'image. Autrement, mon travail en dehors de ces photos destinées, mais qui apprennent, viennent, rentrent dans le réseau aussi, hein, certaines. Mais je travaille sur très peu d'images. J'en ai très peu.
Radio Larzac, écrit à l'encre bleue.
Et le fait de travailler comme ça pour ses proches, ouais. Par exemple, donc j'imagine qu'il y a quelque chose de particulier. En quoi est-ce fondamentalement différent de travailler pour une commande ou une exposition ou une galerie ?
C'est pas différent, hein. C'est pas différent, sauf que je les offre, voilà. Je veux dire, c'est ça. Mais non, elles font partie. Je dis de mon réseau parce que après elles viennent s'inviter, peuvent s'inviter dans une expo. Voilà, là c'est par exemple c'est une photo de mon neveu, tu vois, c'est bon, je veux dire je l'ai faite pour lui et après c'est une photo d'abord sur terre hein, et après je l'ai présentée à l'atelier blanc une fois en performance en fin de compte, je l'ai faite devant les gens.
Donc sur Terre, ça veut dire projeté sur Terre ?
Projeté sur Terre, mais lorsque je fais performance, enfin bon, que je monte ce travail, ce qui est sympa, c'est que bon, je modèle la Terre et l'image apparaît petit à petit. Hein, et donc je peux la recasser, la refaire, voilà.
Donc cette photo, il faut le préciser, c'est le jeune Neptune. Oui. C'est comme ça, enfin c'est comme ça que tu as intitulé l'œuvre. Donc avec oui effectivement quelque chose, une chevelure un peu marine quoi hein, en
oui,
fait.
Oui.
Voilà. Et alors c'est marrant que tu parles de Terre parce que donc Neptune chez les Grecs c'est Poséidon et Poséidon c'est celui qui entoure les terres.
Qui entoure les terres. Oui le. Ouais oui. Eh ben oui là. Il y a ce contraste, voilà, parce qu'on voit, si on s'approche là, enfin, ça donne une photo avec de la matière, voilà, qui. Voilà, je sais pas comment
dire. Avec un grain particulier ?
Oui, enfin, c'est. Un côté sculpture, voilà, ce que je cherche, voilà, un côté sculpture.
Oui, donc ce qui nous renvoie aux images, enfin des images différentes, des images en relief, voilà, qu'on ouais. trouve dans la statuaire gréco-romaine.
Voilà. Mmh. Voilà, c'est ça les. Tu vois.
Voilà. Ok, on va faire un petit tour à l'atelier. Alors, on monte les escaliers. Ah oui, petit carillon au passage.
Il y a beaucoup de choses comme ça dans la maison hein, qui sont.
Oui. Oui, on retrouve les œuvres dans la maison.
Beaucoup et j'ai aussi beaucoup de. Je fais des photos aussi des œuvres au quotidien. Par exemple, les photos, une photo dans la chambre qui se retrouve à moitié cachée avec des piles de linge. L'œuvre avec le bateau et un ami en tête de proue qui est envahi par les plantes. J'aime bien aussi. Voilà, c'est sans fin. puisque après, même, je fais en photo. L'environnement, voilà, les évolutions et tout, voilà.
Alors cet atelier, bah, il est assez grand quand même. Moi, je l'avais vu de nuit. C'est oui. vrai qu'on en a une vision assez différente là, dans la journée, avec la fenêtre ouverte, etc. C'est un petit peu différent. Alors il y a ce mur là, voilà, ce mur qui n'est pas droit, qui fait des vagues un peu.
Oui, ouais.
Et sur lequel il y a des comment on pourrait dire ça ? Des couches, des strates, de différentes choses, d'enduits, de peinture, de papier.
Ah ouais. Oh oui, je l'ai pas. J'ai enlevé une partie des vieilles tapisseries, mais je l'ai laissé comme ça, tout ce mur, vieux mur, quoi. Vieux mur, mais bon. Après, intéressant pour installer, par exemple, ces transparents, ces peintures sur transparents. Qui font que le mur de l'atelier, ben, il.
Ça sert à tester important. Des accrochages ?
Non, c'est. Ben, en général, enfin, au tout début, j'ai avec ces transparents-là, j'avais fait une exposition sur des murs, des vieux murs. Mais autrement, c'est là que je fais les essais, hein, sur un mur blanc. Et là, non, c'est. C'est des choses que j'accroche. Oui, je travaille ce mur. En fin de compte, c'est un accrochage. C'est pas pour une exposition, c'est pour l'exposition.
C'est un accrochage de travail.
Voilà, c'est un accrochage d'atelier. C'est une œuvre en soi, on va dire. Et voilà.
Mais qui évolue en permanence.
Oui. Voilà, c'est des choses qui sont fixées. Là, il y a des choses qui sont fixées.
C'est transparent, c'est un travail sur les plantes ou...
Non, mais là, ça part. C'était un travail justement pour une amie. J'avais une photo où elle tenait une rose et donc voilà, j'ai repris cette rose. Voilà.
Et alors, donc c'est des monochromes, hein, puisque c'est de la peinture noire.
Oui, j'ai jamais cherché à faire.
Mais il y a un effet dans la texture, dans la surface qui est. Qui est lié à la matière même du transparent, non?
Oui, la manière de peindre. Et donc, ça fait très, très fragile comme peinture, très légère. Bon, là, elle est sur transparent. Je les ai transférées sur le mur. Et là, on est vraiment dans les fresques, la fresque, dans aussi aile de papillon, enfin des choses très très fragiles, parce que je veux dire, ça tient à peine sur le plastique. Et donc c'est des œuvres très fragiles, mais bon, voilà, qui est la fragilité de l'image. Alors, et d'un autre côté, tu as une image qui est prise dans la résine, celle-là, l'atelier de mon père.
D'accord, oui, là effectivement, on confronte presque quelque chose du diaphane, de la fragilité à quelque chose comme ça qui est un peu solide, figé.
Mm-hmm. Oui, c'est figé.
Alors, perpendiculaire à ce mur d'atelier, il y a donc le mur, lui, qui sert à tester l'accrochage, la projection.
Oui. La projection. Voilà, là, j'avais fait la taille de la vrac pour travailler.
Oui, le cadre reprend les dimensions d'un des murs de la vraie.
Oui. Oui, là aussi, j'ai essayé là-dessus. Après, il y a plein de choses sur les étagères, dans les étagères.
Ben, on va aller voir ça.
Oui. Là, par exemple, ça, c'était aussi...
Des mini-projecteurs de diapos. Des visionneuses, non, c'est ça?
Ouais. Donc, là, on ne voit pas trop. Là, on se met à dehors. Alors là, c'est aussi double projection. Donc, je les avais présentés là, et donc ça fait beaucoup de profondeur.
Ah oui, ça crée un effet presque tridimensionnel. Oui.
Ouais.
Alors, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait mettre comme ça deux diapos dans une visionneuse.
Oui. Voilà, je garde les deux superposés, mais aussi on peut en mettre plusieurs les unes sur les autres. C'est là que tu peux mettre qu'une partie. Enfin bon, tu peux. Enfin, c'est indéfini, hein, l'image diapo. Voilà, donc là j'avais toute une série. Après, donc je remonte. Là, les merveilles du monde. Donc ça, c'était un cadeau des cadeaux de Noël. Tu vois, c'est.
Donc c'est un calendrier.
C'est un calendrier de 2011 maintenant. Donc association Dumont Béatitude en Israël avec le Golden Gate de San Francisco. Le temple.
Oui, le temple zébré par l'éclair.
Ouais. Voilà, après il y a des loupés, hein. C'est ça.
C'est-à-dire.
des loupés qui sont pour l'instant qui reste dans les boîtes, hein, puisque rien n'est fini. Hein, ça peut finir encore plus abîmé. Là, donc.
Oui, là, on est. Parce que là, c'est pas seulement du montage, on a presque un effet de distorsion de l'image.
Oui, bah oui, bien sûr. Ça s'est légèrement chauffé.
Donc pas jusqu'à la brûlure, mais jusqu'à la déformation.
Oui, jusqu'à la déformation. Par contre, ces apparitions comme ça de brûlure. Là, ça donne de la lumière. Donc, je joue beaucoup avec la lumière. Et puis, là, ça fait un temple complètement magique, quoi. Tu vois, ça, par exemple, ça, c'est une marche d'Égyptiens. Donc, j'ai rajouté cet arbre derrière. Et là, c'est pris sur le mur. Hein, c'est un transparent... qui était accroché au mur, et j'ai pris la photo.
Oui, alors tu dis une marche d'Égyptien, mais bon, ça c'est toi qui le sais.
Oui.
Parce que ça devient tout à fait autre chose en fait.
Ouais. Oui, on voit quand même que les gens marchent. Hein, et donc, c'est comme une marche pour la paix, je trouve. Mais bon, c'est peut-être pour ça que j'ai rajouté.
D'où la présence de l'arbre.
Bah oui, ça, on dirait un olivier un petit peu. Enfin, il est un peu droit, mais voilà, bon. On veut voir des choses encore.
Allez.
Bon, ça, c'est tout, beaucoup d'images d'amis. Ça a beaucoup de projections. Ah oui, j'ai travaillé beaucoup. Alors, ça, c'était une image que j'ai beaucoup travaillé. On s'en souvient, c'est vieux, hein. 36-15 Ula, dans les campagnes, en revenant de Bretagne. On voit que c'est vraiment un village. Bon, ces affiches.
Donc, c'est à partir d'une campagne d'affichage.
Minitel Rose, enfin. Et bon, c'est le fait que ce soit en pleine campagne et qu'il y en avait quand je passais, donc plusieurs sur la route, sur les nationales. Et donc j'ai travaillé, j'ai fait toute une série en superposant mes images à l'affiche. Donc là, les rencontres avec le bateau, hein, donc Mathilde aussi. Donc ça, c'est en bas. Un ami figure de proue. Bon, ben, le bateau dans tous ses états, quoi.
Oui, c'est intriguant, l'association des portraits avec l'image du bateau.
Oui.
C'est presque comme si on voulait signifier la présence de l'humain à bord.
Oui, bah ouais. Et l'ami me disait qu'il était content d'être le chef, la tête de proue du bateau. Le guide, hein, comme un guide.
Alors, je me demandais, donc, tu nous expliquais tout à l'heure que voilà, tu avais besoin de maturer les choses très longuement,
mm-hmm.
pour, dans le cas, par exemple, donc, de cette dernière exposition à Lavrac, où en fait, tu t'y étais pris très tôt pour sa conception, sa réalisation. Donc, je me demandais, qu'est-ce que c'est les projets est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui se profile ou c'est la continuité du processus de travail qui se poursuit tout simplement.
Ah oui, oui. Oui, je me dis pas, tiens, je vais continuer sur cette image-là. Mais bon, après, j'ai retrouvé des choses. J'ai retrouvé ça. Gendarme turc et leur trophée. Ouais, tu vois, j'ai commencé ça, j'ai mis de côté parce que voilà, ça c'est des choses oubliées dans les carnets. Voilà, j'ai collecté aussi plein de photos de gens qui marchent. Voilà, j'ai des choses qui sont là, qui attendent. Hein.
S'il n'y a rien de précis en chantier, est-ce qu'il y a des envies ou une envie particulière qui, comme ça, pointerait le nez?
Un petit peu, ouais, parce que j'aime bien faire des livres. Enfin, maintenant, il y a des petits livres. Et là, j'avais fait un livre avec des images d'atelier et des phrases de Gilles, hein, de Gilles, mon mari. Ouais. Donc, des phrases poétiques, des tirées de lettres, enfin bon... Et c'était un cadeau pour lui. Et là, ça m'a beaucoup plu. Ça me plairait de faire une exposition avec, je ne sais pas, des grandes photos, mais avec du texte. Enfin, bien sûr que ce ne serait pas de moi, parce que...
Donc, c'est-à-dire un travail en collaboration ?
En collaboration, oui. Mmh. Voilà.
Bon, ok, bah on attend ça, on verra. En 1972, Nina Simone reprend Isn't It a Pity, la chanson que George Harrison avait enregistrée 2 ans auparavant sur l'album All Things Must Pass. Cette chanson, rejetée quelques années plus tôt par les Beatles sur un veto de John Lennon, avait failli être adoptée par Frank Sinatra. Partant d'une introspection suite à un échec sentimental, Isn't It a Pity est aussi une réflexion sur le thème de l'amour universel. Dans son album Emergency World, Nina Simone en fait un commentaire poignant sur la guerre du Vietnam. L'occasion pour elle de développer toute la charge émotionnelle contenue dans sa voix, ainsi que toute sa science pianistique.
I'm talking about yet, but I'm gonna tell you soon. It's a pity. Isn't it a pity? Isn't it a shame? Yes, how we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to remember, just forgetting a note of thank you. Isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain when not too many people can see that we all just the same? We're all guilty because of all their tears. Our eyes just can't hope to see, though I don't think it's applicable to me, the beauty that surrounds them. Child, isn't it a pity? How we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to keep open our door. Isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain? Isn't it a pity when not too many people can see we're all true, the beauty that surrounds them. Maybe that's why we cry. God, it's a pity. Yeah. Lord knows it's a pity. Mankind has been so programmed. They don't care about nothing that has to do with care. C-A-R-E. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back. Forgetting to keep open the door. But I understand some things take so long. How do I explain? Why not too many people can see we're just the same? And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. God, isn't it a pity? The beauty that surrounds them. Take it for granted while not thinking anymore. We give each other pain and we shut every door. We take each other's mind. Capable of taking each other's souls. We do it every day. Just to reach some financial goal. Oh, isn't it a pity? My God, isn't it a pity? My God, it's so unnecessary. Just a little time, a little care, a little note written in the air. Just a little thank you. We just forget to give back, 'cause we're moving too fast. Moving too fast, forgetting to give back. But some things take so long, and I cannot explain. The beauty that surrounds us, and we don't see it. We think things are just the same. We've been programmed that way. Isn't it a pity? If you wanna feel sorry, isn't it a pity? it a pity? The beauty that surrounds us, because of all our tears, our eyes can't hope to see. But maybe one day at least I'll see me and just concentrate on giving. That day, mankind don't stand a chance, don't know nothing about romance. Everything is plastic. Isn't it a pity?
Écrit à l'encre bleue, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures sonores, de nouvelles rencontres avec un encrier rempli de bleu. Thank you.